Ce sera notre dernier rendez-vous de l'été, avant historiquement vôtre cet après-midi à 16h. On retrouve David Castello-Lopez. Bonjour David.
Bonjour Lionel.
Alors tous les jours vous remontez, David, aux origines d'un objet, d'une passion ou d'une invention. Et aujourd'hui, vous nous parlez de celui que beaucoup vont retrouver dès lundi prochain. Il s'agit de l'Open Space.
Oui, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une entreprise qui s'appelle l'agence Kappa. Et pour des raisons un petit peu bizarres que personne n'avait vraiment décidé, j'avais le meilleur bureau de tout l'étage. C'était une pièce de 15 mètres carrés avec un canapé, un panier de basket, une table pour manger, une barre de traction, deux grandes fenêtres, des fauteuils. Mais bien sûr, c'était une anomalie parce que j'étais pas un employé particulièrement important. Et un jour, tristement, ce qui devait arriver arriva. Il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que c'était chelou que j'ai un bureau de cette taille alors que les rédacteurs en chef de l'émission pour laquelle je travaillais, ils étaient à deux dans un bureau deux fois plus petit. Moi, j'avais zéro argument pour défendre ma position. Alors, j'ai dû renoncer à mon privilège et retourner dans l'open space avec la piétaille. Et là, j'ai vu la différence. Et la différence, elle venait du fait qu'on me voyait. Pas possible de se cacher derrière l'écran de son ordinateur. Pas possible de faire une petite sieste sur le canapé. Pas possible même de passer sa journée sur Facebook.
Bah oui.
Et donc, depuis ce moment-là, je n'aime plus trop les open space. Mais paradoxalement, ça m'a donné envie de savoir depuis quand est-ce qu'ils existaient. Eh bien, les open space existent depuis très longtemps, en fait. Il y a des gravures du 18e et du 19e siècle en France et en Angleterre où on voit des gens qui travaillent dans ce qui ressemble complètement à des open space. Mais disons que ça n'a pas vraiment été théorisé, l'open space, avant le 20e siècle. Et pour résumer, le 20e siècle, niveau design de bureau, c'est vraiment une grande bagarre, si vous voulez, entre les partisans de l'open space et les partisans du pas open space. Le premier designer de l'open space moderne, c'est peut-être l'architecte le plus connu du monde, Frank Lloyd Wright, qui a dessiné un open space de très très grande beauté en 1939, qui ressemblait à une sorte de forêt avec 10 mètres de plafond et des colonnes qui ressemblaient exactement à des arbres. Et puis cet open space de Frank Lloyd Wright, disons, réussi, il a été réinterprété par d'autres architectes et au passage il a été un petit peu dévoyé et on s'est retrouvé avec des espaces de travail typiques du folklore des Trente Glorieuses, où on voit des grandes salles avec des bureaux gris à perte de vue et des machines à écrire dessus, un peu triste, même si le côté vintage aujourd'hui peut lui donner un certain charme. Et puis là est intervenu un monsieur qui s'appelle Robert Probst. Robert, il a créé ce qu'il a appelé l'Action Office, le bureau centré sur l'action. Et ce qu'il a fait, Robert, c'est qu'il a divisé l'open space en espaces modulables avec des cloisons courbes, blanches, comme ça, très jolies à voir. Donc, en tant que patron, vous pouviez dessiner l'espace de travail parfait. C'était une sorte de semi-open space intelligent et super joli à voir, en plus, avec un côté James Bond très bien. Vous pouvez regarder des vidéos sur Internet, c'est très joli à voir. Ouais. Mais de la même façon que le bel open space de Frank Lloyd Wright a été dévoyé, l'Action Office de Probst, il a été dévoyé aussi. Et c'est devenu, en quelques années, le fameux et fumeux bureau à cloisons. Vous savez, ces espaces compartimentés par des cloisons qui vous cachent quand vous êtes assis et au-dessus desquels vous pouvez voir quand vous êtes debout. En anglais, on appelle ça des cubicles. Et c'est devenu le symbole de la tristesse du travail de bureau dans les années 80 et 90.
Oui, oui.
Mais à partir des années 90, on a eu tendance à revenir à l'open space sous l'impulsion des entreprises de la tech. Et toutes ces entreprises, elles ont mis en avant un argument, Google en premier. Et cet argument, c'est l'open space, c'est mieux parce que ça permet aux gens de communiquer. Or, c'est en communiquant qu'on a de nouvelles idées.
Et oui.
Mais malheureusement, il y a plusieurs études qui ont montré que c'était pas vrai, en fait. D'après une étude de Harvard qui était faite en 2018, l'open space réduit la communication en face à face entre les gens. Ça ne l'augmente pas, ça la réduit. Et les gens, ils remplacent la communication face à face par des emails. Donc, quand vous passez, la morale, c'est que quand vous passez tout votre temps face à vos collègues, vous n'avez pas envie de leur parler directement et vous leur envoyez des emails. Mais bon, ça fait super longtemps qu'on soupçonne très fort une autre raison au succès récent de l'open space, c'est le fait que ça coûte moins cher. Et oui, quand on met plus de gens dans moins d'espace, eh bien on a besoin de moins d'espace et donc on fait baisser les loyers. Et le passage à l'open space, il a comme ça fait économiser des centaines de millions de dollars de loyers aux entreprises du monde. Mais aujourd'hui, disons, à la pointe du design de bureau, il y a une grande tendance qui se dessine. Et cette tendance, c'est l'absence de bureau. Parce que le Covid a montré qu'en fait, on pouvait presque tous travailler chez nous sans que ça pose de problème majeur. Donc le futur, c'est ça. C'est pas d'open space, c'est pas de space du tout. C'est chez vous.
Effectivement. Eh bien, merci David. Rendez-vous cet après-midi donc avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre à partir de 16h. Le titre de l'émission, pas de bol, les poissards de l'histoire avec Guillaume Legentil, Honoré de Balzac et Pierre Richard. Et pas de bol, c'était votre dernière chronique dans la matinale de l'été. Mais on vous retrouve dès lundi avec Stéphane et Mathieu.
Tout à fait, à lundi.